Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Fragilisé par le changement climatique, l'Arctique est de plus en plus au cœur des enjeux scientifiques, mais aussi géopolitiques, et de fait, l'objet de toutes les attentions, mais aussi de rivalités et de tensions. Terre de biodiversité, berceau ancestral pour des peuples autochtones qui doivent faire face au réchauffement climatique et la fonte rapide des glaciers, cette zone géographique est un véritable laboratoire scientifique, scrupuleusement observé par les chercheurs qui courent après le temps, et un lieu aussi d'adaptation au réchauffement climatique qui en fait une sorte de zone pilote pour le reste de la planète. Que nous dit l'Arctique ? Quelle métamorphose s'y opère ? Quel secret reste-t-il à percer ? Et quelles leçons à en tirer ? Réponse aujourd'hui avec Anaïs Orsi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et à vos côtés, Anne Kéméré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes navigatrice, exploratrice et romancière, éveilleuse de conscience, auteure du livre Passagère de l'Arctique, paru chez Locus Solus. Et en seconde partie d'émission, nous nous intéresserons aux différentes formes prises par la mobilisation citoyenne pour sauver le climat. Et nous serons en compagnie de Audrey Garic. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux pages planète du journal Le Monde, notre partenaire. Et à vos côtés, Félix. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre d'Extinction Rébellion, un mouvement d'origine britannique que l'on va découvrir avec vous. Un mouvement qui prône la désobéissance civile afin de lutter contre le réchauffement climatique. Merci à toute l'équipe, clin d'œil à Naï Morales pour la préparation de notre émission, à nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoux, Caroline Chausset et Vanessa Chang, sans oublier notre réalisatrice scrupuleuse Alexandra Malka, avec à ses côtés aujourd'hui à la technique Emmanuel Morse-Duncan. Bonjour à tous et bienvenue.
C'est un mastodonte de glace de 100 mètres de haut et près de 200 de large pour la partie visible seulement. Impressionnant et menaçant, cet iceberg de près de 11 millions de tonnes frôle depuis quelques semaines ce village de l'ouest du Groenland, Inarsuit.
C'est beau. Et puis nous sommes habitués, nous avons beaucoup d'icebergs ici. Mais c'est vrai que celui-là, il est beaucoup plus gros que les autres.
Plus gros, mais surtout plus proche. Et en surface, des crevasses se dessinent déjà dans la glace. Les autorités craignent qu'un gros bloc ne se détache et provoque une vague géante. Car s'ils semblent immobiles, les icebergs ne cessent de bouger. 33 des 169 habitants ont été évacués. Ce pêcheur vit ici depuis sa naissance. Il connaît bien les icebergs.
Mon père m'a appris que ceux-là étaient les plus dangereux, parce qu'ils finissent toujours par se briser. Et celui-là, c'est sûr, il va soulever une énorme vague.
C'est un reportage qui a été diffusé le 24 juillet 2018 sur France 2. Les glaciers fondent à grande vitesse. Arctique et Antarctique sont touchés par le phénomène. Quant à la fonte des glaces de l'Arctique canadien, par exemple, elle a livré tout récemment aux yeux des scientifiques américains des plantes boréales, figées jusque-là dans les glaces depuis plus de 40 000 ans. Est-ce que c'est une source de préoccupation avant tout, Anaïs Orsi ?
Les glaciers fondent de manière très rapide et les glaciers sur Terre, c'est en effet préoccupant parce que c'est une ressource en eau pour beaucoup de monde. Dans l'Arctique, il n'y a pas beaucoup de monde et là, le danger, il est plus au niveau de l'élévation du niveau de la mer. La contribution potentielle des glaciers au niveau de la mer, elle est de peut-être un mètre à la fin du siècle, donc on parle de beaucoup d'eau quand même.
Anne Kéméré, source de préoccupation, pour vous c'est aussi une occasion formidable de pouvoir naviguer dans des endroits qui ne seraient pas forcément accessibles. Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que je sais que c'est un terrain qui vous tient à cœur et dès que vous y retournez, il y a quand même quelque chose qui se passe.
Alors moi c'est plus le côté arctique canadien dans le delta du Mackenzie et entre autres ce petit village que j'ai évoqué dans mes livres qui s'appelle Tuktoyaktuk. Et aujourd'hui, alors avec cette ferveur qu'on peut voir à travers le passage du Nord-Ouest et la possibilité de le traverser de part en part assez rapidement toute l'année. Il y a aussi la rencontre avec les Inuits. On se rend compte que peut-être ils ne sont pas nombreux, ils sont quand même dans des villages aujourd'hui, ils ne sont plus nomades et ces villages disparaissent. La montée des eaux, moi ce que j'ai observé à Tuktoyaktuk et dans toute la péninsule, c'est une érosion qui est galopante puisque on est sur du permafrost qui fond et automatiquement on se retrouve dans un terrain qui est très meuble. Tuktoyaktuk a vu, alors moi la première arrivée c'était en 2014, hein, donc j'ai une très petite expérience, on est aujourd'hui en 2019, en 5 ans il y a 6 des maisons de Tuktoyaktuk qui ont dû être évacuées en urgence et il a fallu relocaliser ces personnes. Elles sont relocalisées où le gouvernement peut les replacer, c'est-à-dire que très souvent elles quittent le village. L'été dernier par exemple, une des femmes du village me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos morts? Le cimetière aujourd'hui est vraiment très très proche de la côte et on n'y pense pas, mais il y a aussi cette ville des morts. Qu'est-ce qu'on fait de la famille? Comment on va partager les morts entre toutes ces familles qui vont se retrouver délocalisées? Donc oui, c'est grave.
Anaïs Orsigne, est-ce que quand vous partez là-bas, justement en tant que climatologue, donc vous travaillez à comprendre le phénomène de réchauffement climatique et à en comprendre l'ampleur et les causes, est-ce que vous percevez ces inquiétudes, ce qui se passe sur le terrain au plus près des populations locales?
Ce qui se passe, ça reste un changement qui est profond. Mais ce changement profond de l'environnement, il est couplé à un changement profond du mode de vie des gens. C'est vrai qu'il y a un changement climatique, mais c'est aussi vrai que les Inuits, ils vivent pas aujourd'hui comme ils vivaient il y a 50 ans et comme ils vivaient il y a 100 ans. Et il y a tout qui se superpose. Alors il faut faire aussi un petit peu attention à... est-ce que tout change? Oui, tout change. Mais les gens, la manière dont ils vivent, elle a aussi beaucoup changé. Dans le passé, dans le grand passé, où quand on était des hommes préhistoriques et qu'on faisait des belles peintures rupestres et tout, eh bien, on avait un climat en Europe du Nord qui était très instable. Au Groenland, on a vu qu'il pouvait y avoir des changements climatiques de 10 degrés en 30 ans. On appelle ça les changements de climat abrupts. C'était des changements très profonds. Et en Europe, ça, c'était des énormes changements en latitude de là où il y avait les précipitations, là où il y avait l'herbe et là où il y avait les bisons, etc. pour chasser. Et du coup, les humains, ils vivaient en mode nomade parce qu'ils habitaient dans un environnement qui était imprévisible et instable. Et du coup, ils s'adaptaient. Ils avaient cette flexibilité. Et aujourd'hui, en fait, il y a un fort changement qui nous force aussi peut-être éventuellement à des migrations. Et dans ces populations du Nord, elles étaient nomades. Il y a peut-être une raison pour laquelle elles étaient nomades. Et il ne faut pas non plus oublier ça, que les changements des humains, ils se superposent et ils ne sont pas tous causés par le changement climatique, en fait. Et les difficultés d'adaptation, elles ne sont pas toutes liées au changement climatique. Elles sont aussi intrinsèques, en fait, à notre évolution de notre civilisation.
C'est intéressant parce que c'est vraiment l'objectif de vos travaux, Anaïs Orsigne, caractériser le climat normal polaire et la variabilité interne. Est-ce à dire que l'on ne connaît pas bien ce qu'est le climat polaire en Arctique? Et je crois qu'en Antarctique, c'est encore plus le flou total. On manque de données concrètement parce qu'on n'a pas de données qui émanent de stations météorologiques plus anciennes, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc la première chose, c'est qu'il n'y a pas grand monde où, disons, on a très peu de stations météo parce que les Inuits, ils n'ont pas de stations météo ou ils n'en avaient pas, disons, il y a 100 ans. En Europe, on a des enregistrements depuis 150 ans à peu près. Mais en Antarctique, personne n'y était il y a 150 ans. Et du coup, on a 2-3 enregistrements des explorateurs qui y sont allés. Les premiers explorateurs, c'était Scott et Amundsen en 1912. Oui. Non, mais ils n'ont pas rien fait. Hein. Ils avaient toute une caravane scientifique avec eux. Et ils ont fait des mesures vraiment qui sont utiles. Il y avait les baleiniers aussi qui ont fait des mesures de la surface de l'océan, mais ça reste vraiment ponctuel. Et les vraies mesures, c'était 1957, quand il y a eu la première année polaire internationale. Mais le problème, c'est que ces systèmes avec les glaciers dans l'Arctique, dans l'Antarctique, c'est des systèmes qui bougent lentement. Enfin, ils peuvent bouger vite aussi, mais ils ont des temps de réaction qui sont lents. Et donc, 20 ans, 30 ans, c'est pas grand-chose. Ça nous permet pas d'observer ces systèmes qui ont des périodes qui durent plusieurs dizaines d'années. Ben, si on n'a pas observé 2-3 périodes, on comprend pas le cycle. Et en fait, on est un petit peu coincé par... nous, les bonnes données, on les a depuis le début des satellites, parce que là, on n'a pas besoin d'y être, on voit depuis le ciel, donc c'est bien pratique. Mais 1979, le changement climatique, il avait largement commencé. Donc, on sait même pas si les premières données, c'est 1979, eh ben... on ne sait pas c'est quoi le pré-anthropique, finalement. Et ça, parce que, tout simplement, c'est des endroits très reculés où il n'y a pas grand monde.
Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes ces données précises? Expliquez-nous comment vous procédez. Parce que le réchauffement climatique, donc, il est là, on ne le nie pas. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il est là, mais surtout pourquoi il est différent par rapport au précédent, c'est ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un réchauffement climatique qui semble plus important, qui s'emballe, et comment vous procédez pour essayer de retrouver des données qui vous permettent de comprendre le phénomène pour ensuite anticiper ou préparer peut-être les populations à un éventuel niveau de la mer qui pourrait submerger telle ou telle zone, etc.
On va dire que l'objectif, c'est de savoir à quoi s'attendre, de pouvoir envisager l'avenir de manière la plus sereine possible. Si on est face au mur, on ne réagit pas nécessairement de la manière la plus intelligente. Si on arrive à se dire dans 20 ans, dans 30 ans, mon infrastructure portuaire, elle devra être capable de gérer une crue de temps, est-ce que les barrages qu'il y a en amont de Paris vont être capables de gérer les crues qu'il y a l'hiver? Ben ça, c'est des questions importantes auxquelles il faut apporter des chiffres précis. Et pour ça, il faut qu'on comprenne comment le système va évoluer et en combien de temps. Mais si on n'a jamais observé les phénomènes, parce que le monde qu'on a connu dans notre petite période d'observation, qui est les 30 dernières années ou parfois les 100 dernières années, si c'est jamais produit ce qui va se produire dans l'avenir, eh ben, soit on devine, soit on essaye de trouver des périodes dans un passé plus ancien où le climat était plus chaud, parce que le climat a été plus chaud qu'aujourd'hui dans des temps beaucoup plus anciens, comme par exemple le dernier interglaciaire. La planète, elle était 2 degrés plus chaude qu'aujourd'hui, pour des raisons complètement différentes. La raison, c'était que l'orbite de la Terre autour du Soleil était un peu différente, il faisait un petit peu plus chaud en été.
Donc c'était à quel moment ?
Ça, c'était il y a 125 000 ans, donc il y a longtemps. Mais bon, ok, une planète, 2 degrés de plus, le niveau de la mer, 6 à 9 mètres de plus. 6 à 9 mètres, c'est pas rien.
Et parce que vous avez retrouvé des récifs coralliens.
Et on a retrouvé des récifs coralliens un peu en altitude, dans les tropiques. Et du coup, on est capable de... On ne sait pas, on ne vous donne pas les trois chiffres après la virgule. On dit 6 à 9 mètres. Mais du coup, il faut savoir d'où elle vient cette glace. Tous les glaciers non polaires, c'est 50 cm. Donc 6 à 9 mètres, c'est forcément au moins la moitié du Groenland et puis un bon morceau de l'Antarctique. La question, c'est comment on a fait pour faire fondre tout ça? À quelle vitesse ça a fondu? Et ça, c'est des systèmes qui sont assez lents. C'est pas simple de comprendre ou de pouvoir bien modéliser comment exactement on passe de l'un à l'autre. Et c'est l'enjeu, en fait, de nos recherches.
Anne Kéméré, alors aujourd'hui, donc, avec Anaïs Orsi, vous êtes deux femmes, deux univers, une même terre d'exploration, l'Arctique, et donc cette zone que vous avez mesurée, appréhendée à travers vos expéditions, Anne Kéméré. Donc, vous êtes aventurière, avant tout. On peut dire que depuis plus de 15 ans, je cite, vous me dites si je me trompe, il y a eu la traversée à la rame en solitaire de l'Atlantique, en 2002, 2004, 2006.
Puis une deuxième en 2004. Ouais. Ensuite, une traversée de l'Atlantique en kite boat, qui était un prototype, un bateau qui n'existait pas et qu'on a conçu propulsé par une aile de kite.
Ensuite, les glaces du Groenland.
Les glaces du Groenland, puis le Pacifique.
Ouais. Le Pacifique en 2011, et puis l'Arctique, avec ces tentatives donc de passage du Nord-Ouest. La dernière fois, vous n'avez pas pu aller au bout, mais vous allez retenter cette année, on va en parler. Des rêves de môme, qui viennent d'ailleurs de livres. Je crois que Paul-Émile Victor a été votre premier compagnon.
A versé mon enfance, puisque mon tout premier livre offert par ma grand-mère était Apoutsiak, le petit flocon de neige, que j'ai toujours d'ailleurs, qui aujourd'hui, en tout cas parce que je me sens aussi heureuse dans les glaces, a certainement été un facteur déclenchant. J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, d'abord parce que ce livre était dans un carton et que je l'avais oublié, que ma mère l'a ressorti en me disant « mais dis-moi, ça viendrait pas de ça, tes rêves ?» et que finalement les lectures, oui, évidemment, les lectures m'ont énormément porté, continuent à me porter, parce qu'elles nous permettent l'imagination, mais elles nous permettent une imagination qui est parfois trompeuse, puisque moi je suis partie avec l'idée d'un article de Paul-Émile Victor, mais l'article n'est plus celui de Paul-Émile Victor. Ça a énormément évolué, que ce soit au niveau du climat ou que ce soit au niveau, surtout, le mode de vie des Inuits aujourd'hui par rapport à ce que ça pouvait être dans les années 50.
C'est ce qui a joué sur votre prise de conscience, parce que finalement, au départ, votre premier moteur, c'était plutôt l'aventure sportive, aller au bout de vos limites dans des expéditions extrêmes. Et puis on sent que tout d'un coup, ces dernières années, peut-être ça a basculé, une prise de conscience environnementale, l'envie de mener des expéditions qui interpellent avec un bateau équipé de panneaux solaires. Donc qu'est-ce qui a été le déclencheur selon vous ?
La rencontre avec l'autre. Mes aventures précédentes, qu'elles soient sur l'Atlantique ou sur le Pacifique, ne m'avaient pas permis d'aller rencontrer l'autre, puisqu'il n'y a pas d'île entre le départ et l'arrivée. Donc je voyageais seule, et c'était très bien comme ça. Et puis il y a eu cette rencontre au Groenland avec les communautés de Tasiilaq, et je me suis rendu compte de cette terrible frustration, parce que je ne parlais ni l'Inuktitut ni le danois. Et je me suis dit, mais rencontrer des gens et ne pas être capable de les comprendre, alors que je voyais qu'il y avait énormément de choses à partager et que je trouvais qu'il y avait un parallèle assez évident avec la Bretagne que moi je vis et que je connais, dans la pêche, dans cette relation à la terre. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais il faut que j'y retourne. Mais je veux retourner dans un lieu où je serai capable de partager avec l'autre. Et ce lieu, puisque j'ai passé 12 ans aux États-Unis, comme je parle anglais, je me suis dit, ça ne peut être que l'Arctique canadien, parce que là, les gens parlent anglais. Et là, je vais vais pouvoir vraiment partager. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque je suis arrivée, alors c'était un peu par hasard, mais enfin je dis par hasard parce qu'aujourd'hui j'y crois plus du tout au hasard, hein, mais je suis arrivée, j'ai fait escale à Tuktoyaktuk parce que les conditions météo étaient mauvaises, et c'est là où vraiment j'ai eu la chance pendant 3 semaines d'être bloquée et de rencontrer les gens, et de rencontrer énormément de femmes qui m'ont invitée à aller pêcher avec elles, et en voyant les techniques de pêche, c'est exactement la même façon que l'on peut avoir en Bretagne de vivre, ou de la façon qu'on avait de vivre avant. Dans la langue, on est dans la tradition orale. L'écriture n'est arrivée qu'au début du siècle. La Bretagne est une terre orale de tradition. Les légendes, enfin, tout me parlait. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment toute une histoire à découvrir. Peut-être d'autres personnes ne sont passées avant moi, c'est sûr. Mais d'enrichissement personnel, et peut-être d'apporter aussi quelques lumières à d'autres personnes qui n'ont pas la chance de voyager en Arctique, c'est peut-être ça aujourd'hui ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça qu'a été écrit Passagère de l'Arctique. Non pas pour raconter une aventure nombriliste et dire « Regardez, je fais des trucs formidables », mais vraiment pour dire « Voilà un petit bout de l'histoire de ces gens qui vivent dans une région bien particulière, parce que je suis dans le delta du Mackenzie, je suis à 4000 km du Groenland, et j'ai encore des gens qui me disent « Alors, c'était sympa, t'as viré au Groenland ?» Et donc je me dis « Mais c'est vrai que l'Arctique, il y a une confusion totale, on est incapable de situer, il y a l'Alaska, ok, il y a le Groenland, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. » Et quand on change de perspective, quand on regarde la carte depuis le sommet de la Terre et qu'on voit effectivement ce que c'est que l'océan Arctique, on prend toute la dimension de la grandeur de cet univers. C'est vraiment enrichissant.
Alors même si on ne sait pas complètement ce qui s'y passe, et c'est vrai que ça reste un lieu bien lointain, il fait régulièrement l'actualité, et notamment à travers ce réchauffement climatique, et en sachant qu'il y a typiquement aussi une course contre la montre, hein, qui se joue là-bas, sur le Groenland notamment. Nous y repartons à travers ce reportage de Grégoire Lecalot, diffusé sur France TV Info le 11 septembre 2016.
Aujourd'hui, 30 mai 1948, nous franchissons le cercle polaire.
Plus besoin de s'appeler Paul-Émile Victor pour se confronter aux grands frissons des glaces. En 30 ans, elles ont reculé de 10 à 50% au pôle Nord, ouvrant le mythique passage du Nord-Ouest au Nord du Canada. En 2007, il a connu son premier été sans glace, et depuis une quinzaine de jours, le paquebot Crystal Serenity, appartenant à un armateur américain, cingle avec ses 1000 passagers fortunés, là où les grands explorateurs ont échoué pendant 5 siècles. Des croisières dénoncées par les ONG environnementales. Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France.
Si elles se multiplient, c'est prendre autant de fois le risque d'avoir un accident maritime dans ces régions-là, avec des rejets de polluants, de carburants dans des mers qui sont très difficiles d'accès, donc extrêmement difficiles à nettoyer. Nous, collectivement, l'humanité, sommes responsables de ces dérèglements climatiques, et nous allons aujourd'hui profiter, entre guillemets, des conséquences de ces dérèglements climatiques pour aller naviguer, faire du tourisme dans ces régions. Et tant pis si on continue d'accélérer encore ce dérèglement climatique.
24 000 touristes dans l'archipel norvégien du Svalbard en 1993, 107 000 en 2013. Les pôles nord et sud attirent de plus en plus et les perspectives de développement apparaissent. Christine Boisboval, directrice France de la compagnie de navigation norvégienne Hurtigruten, qui navigue depuis 120 ans dans les eaux polaires.
C'est vrai que ce sont des opportunités qui nous sont offertes grâce au réchauffement climatique. Donc je pense que c'est tout à fait compatible dans la mesure où on respecte avant tout la destination. C'est-à-dire que des petits bateaux, en se concentrant sur l'écologie, le minimum d'émissions, etc., on peut tout à fait respecter la destination et les permettre de l'explorer aux passagers.
Anaïs Orsi, peut-être une petite réaction à ces appétits, finalement. Hein. Le passage du Nord-Ouest permet de raccourcir d'au moins 4000 km le trajet entre l'Europe et l'Extrême-Orient, en passant par le canal de Suez. On sait que la mer de Beaufort enfermerait en son sous-sol jusqu'à un quart des réserves mondiales d'hydrocarbures. L'Arctique recèlerait 13% des ressources des réserves de pétrole, 30% des réserves de gaz naturel non découvertes de la planète. Bon, c'est une zone quand même, sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique, sur le plan de l'économie, que l'on regarde avec appétit dans certains milieux. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Parce que vous êtes la scientifique qui avait besoin aussi de pouvoir aller chercher ces informations qu'il faut recueillir, en tout cas déceler à grande vitesse, parce que le temps joue contre vous. Quel est votre regard par rapport à ça?
La première chose, c'est qu'en tant que passager des zones arctiques, je peux témoigner que c'est pas si simple de travailler dans le froid. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas quand il fait froid. Par exemple, vous avez un générateur, faut pas dire les mauvais mots, mais eh bien, il y a de l'huile dans le générateur, et s'il fait froid, l'huile devient solide et le générateur ne démarre pas. Et quand vous travailler à moins 10, ok, travailler à moins 20, c'est plus difficile, travailler à moins 30, c'est plus difficile, travailler à moins 40, c'est très très difficile. Et puis travailler, imaginez, vous avez besoin d'avoir des gants, si vous avez des gants très chauds, bah, vous pouvez pas vous servir de vos mains. Du coup, vous faites comment? Et tout ce genre de petits détails, en fait, ça fait que c'est pas du tout trivial d'aller travailler là-haut. Parce que c'est bien beau de dire, il y a du soleil pendant 3 semaines l'été, mais s'il y a une infrastructure qui doit l'hiver, il y a quand même de la glace partout. Et s'il y a une infrastructure qui doit tenir toute l'année, il y a pas mal d'engins qui vont devoir être jamais éteints, donc des gens qui doivent hiverner là-bas, c'est des risques énormes que les gens prennent. Et on dit que le passage du Nord-Ouest, peut-être qu'on pourra le passer, mais il va falloir y aller avec un brise-glace, juste au cas où, cette année-là, eh ben, tout d'un coup, il y a plein de glace. Parce que c'est plein d'aléas à l'Arctique, c'est plein d'incertitudes, c'est quand même un environnement très très dur. Donc moi, je pense que c'est pas demain la veille, que vraiment les gens vont pouvoir gagner de l'argent à travailler là-haut parce que ça va leur coûter vraiment très cher de faire fonctionner un système ou une infrastructure au cours de l'année dans ces zones-là. Parce que nous, on travaille que l'été et déjà, on ne trouve pas ça nécessairement très très simple.
Anne Kéméré, c'est un peu votre position, c'est-à-dire finalement, ces velléités ou financières ou d'exploitation, il ne faut pas s'en inquiéter aujourd'hui ?
On peut toujours s'en inquiéter. De toute façon, on peut s'inquiéter de tas de choses, mais je suis complètement d'accord avec cet avis-là. La nature réserve beaucoup de surprises. On le voit à travers nos aventures. Hein. On écrit un projet, on a un objectif, on fait tout ce qu'on peut pour l'accomplir. Et puis, en plein milieu de l'été, les glaces décident que cette année, elles ne s'ouvriront pas et personne ne passe. Et les croisiéristes se retrouvent à faire demi-tour, ce qui leur coûte quand même relativement cher. J'ai eu l'occasion de discuter, justement, j'avais pas tellement d'avis sur tout ce qu'on entendait à propos du passage, et j'ai discuté avec Armateurs de France, en leur demandant est-ce que vous attendez impatiemment l'ouverture de ce passage pour pouvoir enfin faire passer des bateaux, économiser, comme on disait, les énergies fossiles. Et on dit très honnêtement, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Le risque qu'on prendrait avec des bateaux, parce qu'on n'est pas sur des petits bateaux comme les miens de 6 mètres, on est sur d'énormes structures, des assurances évidemment qui sont extrêmement chères, plus les risques sont grands, plus les assurances sont chères. Armateur me dit, on va pas prendre le risque d'envoyer des bateaux dans le passage où on ne peut pas faire demi-tour, où aujourd'hui en plus la cartographie, et c'est ça qui est passionnant moi je trouve, elle n'est pas exacte. Et c'est très drôle, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, avec un satellite, on est capable de cartographier la planète. C'est vrai. Mais comme les enjeux économiques là-haut ne sont pas pour l'instant assez intéressants, la cartographie reste quand même très sommaire. Moi qui ai pu naviguer avec un kayak le long des côtes, très souvent, je regardais ma carte, j'étais censée être en plein milieu de la toundra alors que j'étais en mer. Et inversement.
Quand j'étais, et ça n'avait rien à voir avec le réchauffement climatique.
Et donc, ça n'avait rien à voir. Là, pour le coup, c'est juste qu'on n'a pas mis les moyens financiers pour faire une cartographie. Mais vous n'allez pas envoyer un cargo avec son chargement et ce que ça représente économiquement dans un lieu où pour l'instant on n'est pas trop sûr de son coût. Donc c'est vrai que là, dans le moment en tout cas, moi quand j'entends demain le passage est ouvert, alors peut-être que la valeur de demain n'est pas la même pour tout le monde. Peut-être que demain ils entendent d'ici 50 ans ou d'ici, et je ne suis pas Nostradamus donc je n'ai aucune idée là-dessus, mais en tout cas c'est sûr que cette région de l'Arctique est très compliquée. Et il ne faut pas confondre, parce qu'on confond aussi très souvent passage du Nord-Est et passage du Nord-Ouest. Ouais. C'est vrai que les Russes ont développé leur passage. C'est vrai qu'on n'a pas un archipel d'îles comme le passage du Nord-Ouest. Et c'est vrai que là-haut, ils circulent depuis un moment et c'est très bien comme ça, ils le gèrent. Mais le Nord-Ouest, c'est tout autre chose. Hein. On est vraiment dans le Grand Nord canadien, avec toutes les difficultés que ça peut représenter encore.
Alors Anne Kéméré, est-ce que vous diriez que vos expéditions sont désormais vraiment tournées vers les solutions pour demain? Parce qu'avec Arctic Solar by ICAD, hein, c'est vraiment la rencontre avec la nature, mais c'est aussi explorer le plancton, c'est l'énergie solaire. Vous êtes vraiment sur ce terrain-là aujourd'hui, c'est-à-dire à faire en sorte que vos aventures servent à trouver des solutions pour des ressources, des énergies non polluantes pour demain?
Alors à la base, c'était pas vraiment ça l'idée. À la base, moi, c'était assez égoïste finalement. C'est que je me suis rendu compte, après mes 2 traversées de l'Atlantique à l'aviron, que j'avais envie de quelque chose qui me permette, moi, d'avancer dans ma vie. Et je me suis dit, si je continue à faire la même chose, à savoir si je pars maintenant sur le Pacifique à la rame et puis l'Indien à la rame, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Je connais le bateau parfaitement. Oui, le nom de l'océan va être différent et les conditions probablement, mais est-ce que moi, ça va m'apporter quelque chose dans mon cheminement? Et c'est là où je me suis dit, bah non, pas du tout. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Bah, c'est justement de rassembler une équipe, de réfléchir sur un projet qu'on a en tête. C'est pas toujours, l'idée ne vient pas toujours de moi. Le kiteboat, par exemple, c'était l'architecte qui avait construit mes 2 bateaux d'aviron qui m'a dit, mais et pourquoi on mettrait pas une aile de kite sur un bateau de la même taille que ton aviron et pour voir si tu irais plus vite? Bah tiens, quelle bonne idée. Et voilà, tout est parti comme ça. Et là, je me suis rendu compte que oui, finalement, en innovant ou en essayant, parce que ça marche pas à tous les coups, évidemment, mais en cherchant des chemins nouveaux, c'est là où ça devient intéressant. Et j'avais pas cette ambition, en tout cas, de trouver des solutions, mais finalement, il s'avère que quand on essaye, parfois, on trouve. Et quand on trouve, ça peut permettre, par exemple, sur les panneaux solaires, je sais que dans le milieu nautique, entre autres, on cherche énormément le panneau solaire qui va être performant, sur lequel on peut marcher, qui va accepter d'encaisser l'air salin. Donc, si moi, mon petit bateau peut servir de laboratoire, et si je trouve quelqu'un comme ICAD pour me dire, mais oui, vas-y, nous, on est complètement partant parce que nous aussi, on aime ce projet innovant, je trouve ça assez sympa de lier justement ce qui était un projet personnel à une ambition un petit peu moins personnelle. Pour le coup.
Et le plancton alors ?
Le plancton, c'est une très très vieille histoire. Mon père avait était cinéaste et enfant, nous allions donc passer beaucoup nos vacances dans les îles de Watt et Dick, enfin les îles bretonnes. Et mon père a filmé pendant tout un été l'écloserie des homards de Watt, qui était tenue par un jeune scientifique de l'époque qui s'appelait Pierre Molot. Pierre a eu la gentillesse de nous laisser regarder tout l'été. Il nous a raconté la naissance des naissins, des huîtres, coquilles Saint-Jacques, homards. Et on s'est retrouvé avec Pierre à Océanopolis à Brest. Chacun avait grandi de son côté et lui est devenu vraiment le père du plancton, m'a raconté tout ça et il m'a dit, écoute, toi qui voyages et vous qui voyagez, parce qu'il parlait vraiment de tous les marins, vous êtes témoins, vous passez sur des lieux où nous on ne peut pas toujours aller à un instant T, est-ce que tu serais d'accord de récolter, de prendre des photos, parce que moi j'ai pas de grand bateau, donc j'ai pas de laboratoire à bord, mais est-ce que tu accepterais de nous servir un petit peu d'observateur du moment, observateur de plancton? Ben moi, toute bonne idée est bienvenue, donc j'ai dit oui, et voilà comment je me suis fait embarquer dans cette histoire. Donc la faute en revient à Pierre Molot.
On va partir du côté du Groenland grâce à ce reportage diffusé sur France 2 le 30 septembre 2015. C'est pour prendre justement la mesure de cet écosystème, hein, faune et flore aussi là-bas en pleine mutation. Et voilà, vous allez comprendre comment est-ce que des chercheurs aussi prennent leur part.
C'est une route maritime bordé d'icebergs qu'il faut emprunter prudemment pour arriver à bon port. Celui de Narsaq. Difficile à croire, mais par sa taille, 1500 habitants à peine, ce petit village de pêcheurs est la 8e ville du Groenland. Une ville où le réchauffement climatique se mesure jour après jour à vue d'œil.
C'est encore un peu plus loin. Allez.
Dans chacune des boîtes qu'ils transportent, une cinquantaine d'arbustes, comme ces épicéas qu'ils sont venus planter, un par un.
They come with the plant. Je mets le plant, and je tasse un peu, je tire et voilà, parfait. Ça va être là pour au moins 400 ans, et ça va devenir un arbre géant. Vous pouvez me faire confiance.
Ici, la forêt fait son grand retour. Des arbres qui avaient totalement disparu du Groenland lors de la dernière glaciation il y a 400 000 ans, auxquels le réchauffement climatique, contre toute attente, donne aujourd'hui une seconde chance.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Anaïs Orsi, le travail que vous menez, ce travail de chercheur, il est là pour nous éclairer sur ce réchauffement climatique et pour aussi estimer les conséquences, parce que ces conséquences sur les écosystèmes, là-bas, elles sont visibles.
Oui, elles sont très visibles aussi parce que 0 degré, c'est un seuil. Plus que 0, la glace fond, moins que 0, les choses restent figées. Et du coup, si on passe de moins 15 à moins 10, on voit pas grand-chose, mais si on passe de moins 2 à plus 2, on voit beaucoup de changements. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement visible dans le sud du Groenland ou dans une région de l'Arctique. Ce changement climatique est très visible parce qu'on est en train de passer un seuil où tout change de forme, change de couleur, change de vie. Et ça, c'est très important. Ouais.
Et donc vous y pensez, vous en discutez entre scientifiques, parce que bon, on imagine que vous travaillez, vous, scientifique française, avec une équipe française, mais aussi avec d'autres nationalités. C'est quand même des recherches aussi qui se passent au niveau international, en tout cas. Oui, il y a une cohésion.
Notre travail est complètement international. Dans l'expédition qu'on a en ce moment au Groenland, qui s'appelle East Grip, parce que c'est dans le fleuve nord-est du Groenland, le plus grand fleuve de glace qui va drainer peut-être un quart du Groenland, eh bien, il y a les Australiens, les Japonais, les Coréens, tous les Européens, les Américains. On travaille tous ensemble. Moi, dans mon équipe, on était 4, il y avait un Australien, un Danois, moi, Française et un Suisse. En fait, on a besoin, en tant que climatologue, de regarder la planète entière et du coup on s'y met à toute la planète pour le faire. Et on collabore vraiment complètement tous la main dans la main aussi pour deux raisons. Une, c'est géographiquement, c'est plus simple de travailler avec les équipes qui sont originaires de ce pays-là, tout le savoir aussi, le savoir autochtone, ça c'est une chose, mais par exemple moi dans les régions polaires, dans l'Arctique encore il y a des autochtones, mais dans l'Antarctique il n'y en a pas. C'est aussi parce que les infrastructures de recherche sont différentes en fonction des pays. Et du coup, on rivalise d'intelligence pour gérer la bureaucratie des uns et des autres pour pouvoir mener à bien des expéditions. Il y a des gens, dans certains pays, c'est facile d'avoir de la main-d'œuvre, c'est facile de recruter des étudiants ou d'avoir des techniciens. Puis dans les pays où c'est très difficile parce que tout le monde est sur des petits contrats, du coup, ils n'arrivent pas à maintenir les compétences dans le temps. Mais par contre, ils ont des avions pour nous emmener sur le terrain.
Parce qu'il faut faire vite aussi. Et donc, vous travaillez sur des carottes de glace ou comment ça se passe?
Je travaille en effet sur des carottes de glace, c'est-à-dire que la glace en Antarctique et au Groenland, elle est particulière, c'est pas comme la glace qu'on a dans le congélo, parce qu'elle vient de la neige et pas de l'eau liquide. Donc c'est pas comme la banquise. La glace de l'Antarctique et du Groenland, elle ne fond jamais. Elle est faite à partir de flocons de neige qui sont entassés. Entre les différents flocons de neige, il y a des trous. La neige va se compacter pour devenir glace. Et bien, dans ces trous, il va y avoir des petites bulles d'air. Tout simplement parce qu'il y avait de l'air dans le trou.
Et ça garde la température de l'époque, alors.
Et du coup, ça garde tout. Ça garde la quantité de poussière et ça nous dit s'il y avait de l'aridité en Chine quand on est au Groenland. Ça garde une trace des feux en Patagonie quand on est en Antarctique. Il y a une petite bulle d'air qui va vous dire la quantité d'oxygène qu'il y avait sur la planète et du coup on va pouvoir vous dire s'il y a 40 000 ans il y avait une extinction de la mousson en Asie du Sud-Est parce qu'on a cet enregistrement de la vraie atmosphère dans le passé. Et ça c'est un des résultats vraiment phares des carottes de glace. C'est comme on a la vraie atmosphère dans une petite bulle de glace qui est préservée, mais on peut vous dire que la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère aujourd'hui, le CO2, le méthane, l'acide nitreux, eh bien c'est inédit depuis les 800 000 ans qu'on a réussi à récupérer de la glace. Donc on a ces enregistrements-là, et ça nous donne vraiment une perspective sur est-ce que c'est un petit changement ce qu'on voit, ou est-ce que c'est un gros changement. On essaye quand même de donner des ordres de grandeur pour comprendre à quel point ce qu'on vit aujourd'hui est anormal ou est vraiment différent, et à quel point on doit se préparer à un mode de vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans notre petit horizon des 50 dernières années. Aujourd'hui, on sait très bien que les dioxydes de carbone, le méthane, sont des gaz à effet de serre, que les gaz à effet de serre réchauffent la planète. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'on va avoir, à la fin du siècle, 20 cm, 50 cm, 1 mètre de niveau de la mer? Là, c'est un petit peu plus compliqué de donner des chiffres comme ça. Aujourd'hui, on est dans un univers mondialisé. Si nos infrastructures portuaires ne fonctionne plus, ça va quand même un petit peu changer la donne. Et là, ces dernières années, on a eu plusieurs crues de la Seine, par exemple. Ben, si on doit s'attendre à une crue comme ça tous les ans, les gens, ils ont intérêt à faire des travaux pour leur sous-sol. Et c'est ce genre de choses, en fait.
Anticiper,
si
se préparer.
Si on veut anticiper, s'adapter, il faut qu'on fasse de la recherche sur le climat. Si on veut prévenir, agir sur la cause, ça, on peut le faire tout de suite, on n'a pas besoin d'en savoir plus si on sait très bien aujourd'hui, 100%, qu'il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un peu les deux choses, c'est prévenir et s'adapter.
On continue dans un instant sur ce thème-là, même si l'heure tourne, bien évidemment, choix musical de Anne Kéméré, que l'on va découvrir. Vous avez choisi Of Monsters and Men, le titre Dirty Pose. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cette chanson?
Alors oui, c'est un groupe que j'écoute beaucoup en mer. C'est un groupe islandais. On est sur un rythme assez entraînant, donc pour ramer par exemple, mais qui s'appuie sur du folklore. Et je trouve très important justement, c'est un peu comme ça que j'ai toujours dessiné mes bateaux. Mes bateaux ont une âme en bois, donc on reste dans de la tradition et on va vers l'innovation. Donc s'appuyer sur quelque chose qui est une base pour aller plus loin. Et je trouve que c'est assez représentatif de ce groupe qui est vraiment dans l'innovation musicale, mais tout est parti de la tradition et du folklore islandais.
Et qui à travers ses paroles interpelle aussi sur le devenir de la planète.
Complètement.
On écoute.
Jumping up and down the floor, My hat is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
Dirty Pose hein, du groupe Of Monsters and Men, le choix musical de Anne Kéméré. C'est la suite de notre émission de Cause à Effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui à l'Arctique, terre de science et d'exploration, écosystème sous le feu du réchauffement climatique et dont les enjeux en font aussi une zone géographique du monde très attentivement scrutée. Nous en parlons avec deux femmes, Anaïs Orsi, climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et Anne Kéméré, navigatrice, exploratrice et romancière, auteure notamment du livre Passagère de l'Arctique paru chez Locus Solus. Et je vous rappelle que dans quelques minutes, c'est la journaliste Audrey Garic du journal Le Monde et Félix, l'un des membres du mouvement Extinction Rébellion, qui viendront nous éclairer sur les formes de mobilisation citoyenne pour le climat. Mais tout de suite, notre vue d'info environnement. Et parmi les nouvelles glanées sur le front de l'environnement, info sérieuse ou insolite, revigorante ou désespérante, eh bien la viande de bœuf fait à nouveau parler d'elle. Suite aux images tournées par un journaliste polonais dans un abattoir où l'on voit des vaches à l'agonie, abattues puis découpées pour leur viande. Or, la Pologne exporte de la viande de bœuf. Face à la crainte d'un scandale sanitaire européen, le ministère français de l'Agriculture a saisi les autorités européennes. Pour en savoir plus, à lire sur lefigaro.fr du 29 janvier dernier. La Norvège a trouvé le moyen de recycler 97% de ses bouteilles plastiques. Elle a mis en place une taxe évolutive sur les fabricants de bouteilles. Moins le fabricant recycle, plus cette taxe est élevée. Ainsi, tout le monde fait des efforts et un système de consigne a même été mis en place. Le recyclage tourne à plein et une bouteille pourrait même être recyclée 50 fois avec ce système, c'est à lire sur positive.fr. Qui remporte la palme du moins de cette semaine, donc de notre sélection? La hausse de la consommation du charbon dans le monde, elle est bien sûr en hausse. Quels sont les pays en cause? Décryptage du rapport de l'Agence internationale de l'énergie à lire sur le site de The Conversation. Et le plus de la semaine revient à une pièce de théâtre, la pièce de théâtre Arctique de Anne-Cécile Van Dalem, une comédie futuriste qui se joue en ce moment à l'Odéon à Paris jusqu'au 10 février.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Je ne sais si vous voulez réagir à l'une de ces petites informations. Anne
Kéméré. Je regrette juste parfois, enfin c'est vraiment un millième de seconde de ne pas habiter Paris pour aller voir le spectacle Arctique à l'Odéon. Mais finalement, non, je suis quand même très très contente d'habiter en Bretagne et j'irai voir le spectacle de l'Atlantique à la Pointe du Raz.
Oui, vous êtes quand même plus espace libre, la mer, que citadine vivant dans du béton, même si Paris se verdit quand même.
Oui, enfin pour moi c'est toujours une grande expédition de venir sur Paris.
Yeah. Alors, nous arrivons au terme de cette première partie d'émission avec vous, Anaïs Orsi et Anne Kéméré. Anaïs Orsi, l'important pour vous, on a compris qu'il y avait la question de logistique, d'investissement aussi. Il faut, si l'on comprend bien, investir dans des systèmes d'observation partout dans le monde pour qu'enfin, vous et les scientifiques qui travaillent avec vous, hein, on disait à l'international, vous puissiez nous renseigner correctement sur ce réchauffement climatique. C'est ça la priorité?
La priorité, c'est déjà de ne pas détruire ce qui existe. Parce que ce dont on a besoin, c'est aussi de ces séries temporelles qui sont longues, qui ne sont pas interrompues. Aujourd'hui, la difficulté dans un monde qui a du mal avec les faits, avec une instabilité politique qui augmente un petit peu partout, même dans les pays qu'on croyait à l'abri, eh bien, c'est que des gouvernants climato-sceptiques puissent dire que, bah, en fait, on n'a pas besoin de services d'observation. Surtout, ne regardons pas ce qui se passe, parce que comme ça, on n'aura pas besoin de le gérer. Et ça, c'est un vrai danger. C'est un danger qui s'est manifesté en Australie, où le gouvernement a menacé de complètement détruire son centre d'observation et de modélisation du climat, qui s'appelait le CSIRO. Donald Trump a aussi émis des menaces qui ne sont pas vraiment arrivées à exécution, mais qui mettent en tension, en fait, tout le système de la recherche internationale, parce que, comme on vous disait, on travaille tous les uns avec les autres, on a tous besoin des observations des uns des autres. Dire, même les Français utilisent tous les jours les données des satellites de la NASA. Donald Trump voudrait que les satellites aillent regarder Mars et ne regardent plus la Terre. Ça, c'est un vrai danger, en fait. C'est pas juste pour rigoler. Ça changera vraiment notre capacité à nous préparer à l'avenir de manière sereine, je sais pas, mais au moins réaliste.
Pour réagir, c'est-à-dire que les rapports du GIEC sont quand même clairs, hein, même s'il nous est très difficile de revenir à 1,5 degré de réchauffement climatique, il faut pas baisser les bras.
Il faut pas baisser les bras. Et ce qu'on a vu avec ce rapport de 1,5 degré, c'est que 1,5 degré, c'est le minimum qu'on puisse espérer avoir et c'est déjà beaucoup. Et chaque petit pas est quelque chose qui va nous aider à nous adapter et à progresser de manière, j'allais dire, continue, sans énorme accroc qui tension sociétale. La question, c'est est-ce que notre société, elle est assez robuste, elle est assez résiliente pour pouvoir s'adapter à ces changements? Moins les changements sont grands, plus notre résilience actuelle permettra de s'adapter.
Anne Kéméré, prochaine expédition?
C'est au mois de juin. J'embarque sur une très jolie course qui est le plus long marathon annuel de pagaie. Je pars en kayak sur la Yukon River Quest. Donc c'est 440 ou 450 kilomètres en 84 heures. On est à peu près, je crois, 125 bateaux et 5 femmes en kayak solo. Donc c'est vrai que j'ai vraiment envie de raconter aussi à travers cette course l'histoire des 4 autres femmes et de tirer une belle expérience, parce que pour une fois, je vais me retrouver sur de l'eau douce. Moi qui suis tellement habituée à l'eau salée, c'est un grand changement.
Merci à toutes les deux. Les liens sur vos sites sont à retrouver sur le site de l'émission. Et puis je cite votre livre Anne Kéméré, Passagère de l'Arctique, paru chez Locus Solus. Mais vous restez avec nous, seconde partie d'émission, ça va vous intéresser bien sûr, en partenariat avec le journal Le Monde.
Chaude ambiance à Toulouse, tous en maillot pour alerter sur l'urgence climatique.
Dans 50 ans, on sera peut-être en maillot de bain ici, mais parce qu'il fera trop chaud.
Je crois que c'est maintenant qu'il faut s'y prendre si on veut que dans 30, 40, 50 ans, que la planète soit encore vivable pour nos enfants et nos petits-enfants.
Dans les rues de Nice, du soleil et des idées.
Par exemple, taxer les bateaux, hein, taxer le fuel.
Une agora en plein cœur de Paris, place de la République. Les manifestants répartis en ateliers échafaudent ensemble des solutions.
C'est pour dire qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux faire avec ma famille, qu'est-ce que je peux faire avec mes amis, qu'est-ce que je peux faire au travail, qu'est-ce que je peux faire auprès de mes élus locaux, nationaux. Et ça, c'est plutôt encourageant.
C'était dimanche dernier en France contre l'inaction des États face au réchauffement climatique. Depuis la rentrée, des citoyens organisent des marches, des pétitions, des actions et puis des mouvements de rébellion, de désobéissance civile commencent à fleurir dans différents pays. Audrey Garic, est-ce qu'on peut commencer peut-être cette partie de l'émission avec un tableau de ces mouvements que l'on a vu émerger depuis septembre?
Oui, c'est ça. Ça s'est passé après l'été 2018. Donc c'est lié à la série de catastrophes climatiques qui a marqué l'été.
été, à la démission fracassante de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui a créé une véritable onde de choc dans beaucoup de milieux. Et après, ça a été renforcé par la parution du rapport du GIEC dont on parlait sur les comment maintenir le réchauffement à 1,5 degré. Et donc, ça fait que les citoyens ont voulu se prendre en charge et enfin se mobiliser dans la lutte contre le changement climatique et contre l'inaction des gouvernements. Donc, ça se traduit, comme vous dites, à la fois par beaucoup de marches. Tous les mois maintenant, des gens descendent dans la rue pour appeler les gouvernements à agir plus frontalement contre le changement climatique. Donc, on a vu des marches, il y a eu le 8 septembre, le 13 octobre, le 8 décembre et le week-end dernier, donc de 26-27 janvier. Et après, ça va plus loin. Il y a maintenant des actions en justice. Alors, c'est en France, mais dans beaucoup de pays du monde. C'est l'ONU qui parlait de 800 recours en justice.
Ouais, c'est important.
C'est important.
Et en France, notre affaire à tous, hein, c'est ça qui a marqué.
Voilà, c'est notre affaire à tous et trois autres ONG qui ont effectivement lancé une action et qui est soutenue par une pétition qui est donc signée par plus de 2 millions de personnes, ce qui est un record en France. Et donc tout le monde espère que ça va se traduire comme aux Pays-Bas, où là où il y a eu, en fait, c'est le modèle pour tous ces gens qui lancent des actions, parce qu'aux Pays-Bas, en 2015, l'ONG Ouganda, qui représentait plus de 800 citoyens néerlandais, a obtenu une victoire et la justice a condamné l'État, en fait, à renforcer la limitation des gaz à effet de serre, de les limiter de 25% d'ici à 2020. Donc voilà, il y a les marches, il y a les actions en justice et pétitions, et après il y a les gens qui disent que ça suffit pas. Il y a tout le mouvement de grève scolaire pour le climat, c'est un mouvement international qui a été lancé par la Suédoise dont tout le monde parle, Greta Thunberg, qui a 16 ans, et qui est suivie maintenant dans des dizaines de pays, notamment en Australie, en Europe, beaucoup aux États-Unis. Et ensuite, et après, il y a tous les gens qui veulent aller plus loin, qui se lancent dans la désobéissance civile, dans l'action non violente, en disant maintenant on doit agir directement, on doit sortir en fait des corps intermédiaires traditionnels, des associations, des partis politiques ou des syndicats, et faire nous-mêmes des choses, parce que faut désobéir de lois qu'on considère comme injustes, notamment pour l'action pour le climat.
Donc changeons le système, pas le climat, c'est un slogan qui revient. Et ce qui est très intéressant, c'est que même s'il y a des actions comme ça différentes, manifestations, rébellions, des grèves, actions en justice, chaînes humaines, comme à Lyon par exemple, dimanche dernier, contre la pollution de l'air, des agora aussi qui se montent sous des tentes ou des lieux de discussion avec des thématiques, on n'a pas le sentiment que les mouvements jouent les uns contre les autres. Finalement, on s'agrège, on se multiplie, mais pour faire nombre presque, on peut dire ça?
Oui, tout à fait. Je pense que là, tout le monde est conscient qu'il y a une lutte et que c'est un combat qui dépasse tout le monde, qui est de lutter contre le changement climatique. Donc, à la base, c'est quand même en France un mouvement citoyen qui a voulu se lancer de manière spontanée, en dehors des associations, des partis politiques, etc. Finalement, ça a été rattrapé par les associations qui organisaient les marches, par d'autres, et tout le monde s'est rendu compte qu'il valait mieux travailler ensemble et que chacun pouvait être utile à la cause et avoir apporté ici l'expertise, là, la capacité de mobiliser autrement les gens, de les faire descendre dans la rue. Et donc, on a vu des citoyens travailler avec des ONG, travailler avec des youtubeurs qui sont suivis par 10 millions de personnes sur leur chaîne et qui ont une capacité d'influence et de mobilisation qui est énorme et qui est unique. Et aussi avec des stars comme Marion Cotillard, comme Juliette Binoche, comme le réalisateur Cyril Dion. Et tout le monde finit par y arriver, même s'il y a pas mal de, il y a eu des dissensions quand même entre tous ces gens qui n'ont pas forcément l'habitude encore de travailler ensemble et qui n'ont pas les mêmes façons de travailler. Je sais que ça a été un peu long au début à se mettre en place, mais aujourd'hui, ils arrivent à mobiliser très vite tous ensemble, et ils avaient un peu l'objectif d'avoir une espèce de méthodologie pour tous les mois, à chaque action, à chaque chose qui se passe. Tout le monde arrive à intervenir sur son réseau, à faire appel à ses connexions et à faire en sorte que tout se mette en place très,
très vite.
Et les réseaux,
les Twitter, les Facebook, enfin voilà. tous ces moyens aussi de médiatiser ou les appels jouent à plein dans une alliance. Finalement, on peut dire. Les partis politiques ne réussissent pas à s'agréger à ces mouvements, donc ces mouvements parviennent à garder une image apolitique.
C'est en tout cas ce qu'ils revendiquent, puisque c'est vraiment un mouvement citoyen et à la base qui s'est créé, comme je disais, en dehors des corps intermédiaires et notamment des partis politiques. Après, des partis politiques ont défilé, notamment dans les manifestations. On a vu dans le cortège la France Insoumise ou le Parti Communiste ou le Parti Socialiste, mais c'est pas les citoyens, non, ils ont tous forcément des convictions en politique, mais c'est pas ça qu'ils mettent en avant, non.
Et puis ces mouvements qui fleurissent partout dans le monde, c'est-à-dire il y a la France, et puis il y a l'ailleurs, donc le monde et l'Europe aussi, où on pointe notre regard sur certains pays, notamment, je vous emmène en Belgique, reportage diffusé sur France Inter le 27 janvier dernier.
La première manifestation, on est venu ici pour demander certaines choses et malheureusement, quelques jours après, on semble ne pas avoir été écouté. Donc on revient en espérant que maintenant, à l'Europe, on sera un peu plus écouté et qu'on voit que ce soit plus juste pour l'avenir, en tout cas, pour nos enfants. Voilà, on va mettre des enfants au monde, mais dans quoi est-ce qu'on va les lâcher? Qu'est-ce qui va se passer pour eux aussi? On a envie d'une certaine sécurité pour eux en plus de ça.
Karl a 13 ans, il est allemand, il est venu en famille avec une pancarte sur laquelle est dessinée la Terre. Il n'y a pas de plan B, a-t-il écrit. Il a un message à faire passer.
Protéger notre planète, que les politiciens agissent, prennent de vraies décisions. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent que dans quelques années, il n'y aura plus de planète. Moi, j'ai envie que mon futur et peut-être le futur de mes enfants soient chouettes.
La Belgique, un pays qui bouge beaucoup. Hein. 70 000 personnes dimanche dernier à Bruxelles, Audrey Garic. Est-ce que c'est un des pays leaders en Europe?
En ce moment, oui, c'est vraiment le pays qui bouge le plus. C'est 70 000 le dimanche. C'était 65 000 en décembre. Et il y a toutes aussi les marches, les mobilisations des élèves, quoi, des élèves et étudiantes. Eux, c'est tous les jeudis, contrairement aux autres pays, je ne sais pas pourquoi, qui sont tous les vendredis. Là, c'est à chaque fois 30 000, 40 000 jeunes qui descendent dans la rue, qui ne vont pas à l'école ce jour-là et qui descendent dans la rue pour appeler à plus d'action. Et en Belgique, donc c'est lié à la déception notamment du fait que la Belgique en fait a souhaité rejeter les objectifs européens au niveau des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il y a eu une déception en fait que le gouvernement n'aille pas assez loin et en plus au niveau européen se mettre du côté des États qui sont les plus récalcitrants. Et aussi la question du nucléaire, puisqu'il y avait une promesse du gouvernement de sortir de l'atome en 2025 et pour l'instant c'est pas tenu, en tout cas on n'en prend pas forcément la voie.
Ces jeunes qui peuvent devenir potentiellement les fers de lance de ces mouvements, et à vos côtés Audrey Garic, il y a justement Félix. Sans dire votre nom de famille d'ailleurs, parce que c'est un principe, vous allez nous expliquer pourquoi. Vous êtes jeune, vous avez quel âge?
27 ans.
Et donc vous faites partie de ce mouvement Extinction Rébellion qui commence à prendre place en France. Avant d'intégrer ce mouvement, vous étiez déjà dans des collectifs peut-être qui s'engageaient pour la planète?
Oui, déjà, je faisais partie d'autres associations et puis dans ma vie quotidienne, c'est des préoccupations qui sont importantes. Donc c'était pas du jour au lendemain.
En sachant que donc vous avez aussi fait des études sur ce thème de l'environnement.
En écologie scientifique, mais oui, derrière, ça fait partie de mes préoccupations tout au long de mes études.
Donc, Extinction Rébellion. Expliquez-nous concrètement, ce mouvement n'a pas pris corps en France.
Il est en train de se monter, non? Il vient du Royaume-Uni à la base. Ça s'est fait là-bas pendant, enfin, il y a eu un petit temps de préparation, je crois, 2 ans, 1 an et demi. Et ils ont fait leurs premières actions le 31 octobre. En fait, dans la foulée, au cours du mois de novembre, le mouvement s'est lancé en France. Et donc là, on est en train de s'organiser pour faire à notre tour nos premières actions dans les mois qui vont venir.
Donc un mouvement qui est plutôt présenté comme radical mais pacifiste, avocat de la désobéissance civile non violente. Concrètement, quels sont les principes du mouvement?
On considère que la situation aujourd'hui, elle est extrêmement grave, qu'il y a une urgence à s'en occuper, que les actions aujourd'hui des gouvernements sont clairement insuffisantes. Et que donc, il y a une nécessité d'agir rapidement. Derrière ça, il y a le côté non-violence où on est dans une approche...
Au contact, il n'y a pas de conflit physique.
Exactement, ouais. La notion de non-violence est vachement arbitraire, donc c'est des questions aussi qui sont aujourd'hui débattues au sein du mouvement, ce qui est normal. Enfin, il y a vraiment un enjeu derrière de fédérer un maximum de personnes, d'embarquer tous les citoyens qui se reconnaissent dans ce combat-là. Puis il y a aussi un peu ce côté horizontalité du mouvement décentralisé où il a émergé au Royaume-Uni, puis il commence à se monter un peu partout dans le monde. Pareil en France, on a plein de groupes locaux qui se montent dans les différentes régions. Et au sein du mouvement, l'idée c'est d'avoir une gestion la plus horizontale possible. On fonctionne par groupe de travail, il n'y a pas de leader, de représentant. C'est aussi la raison pour laquelle on donne juste notre prénom et on n'en fait pas plus, quoi. Enfin, la prochaine interview sera quelqu'un d'autre et puis ça tourne, quoi.
Concrètement, ça passe par quel type d'action? Qu'est-ce qui a été mené d'ores et déjà à Londres?
Alors à Londres, la première action qu'ils ont faite, c'était de bloquer les ponts de la capitale. 5 ponts principaux, je crois bien. Voilà, ils avaient englué, je crois, les militants et les militantes sur le pont pour bloquer la circulation. Ce qu'ils ont fait plus récemment, en janvier, c'était aller au siège de la BBC pour faire une action de blocage du siège, enfin poser des revendications pour avoir un entretien avec le patron, histoire que les médias s'emparent vraiment du sujet et alertent les citoyens sur la gravité de la situation et sur les actions à mener pour essayer d'y apporter des solutions. Quoi.
Donc potentiellement, vous pouvez prendre d'assaut la maison de la radio.
Potentiellement.
Il faut qu'on s'y prépare quelque part. Mais auprès de vous, il y a quand même Audrey Garic, journaliste au journal Le Monde, les pages Planète, et surtout vous êtes spécialiste de ces questions de réchauffement climatique, et puis vous avez investi, je crois, un petit peu ces mouvements-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? On parle de 40 000 personnes qui ont rejoint ce mouvement dans 119 pays, donc effectivement, ce n'est pas non plus un petit mouvement en gestation, c'est qu'il y a un véritable phénomène. Peut-être une attente aussi avec cette autre façon d'agir, un mouvement de lutte qui puise peut-être son inspiration dans les mouvements de lutte pour les droits civiques des Noirs américains.
Oui, c'est ce que revendique Extinction Rebellion, c'est ça qui les a inspirés. Et donc effectivement, le mouvement a connu une croissance assez folle, puisque comme disait Félix, entre les premières actions du 31 octobre à Londres, et là aujourd'hui le fait qu'ils revendiquent 40 000 personnes dans leur base et 119 pays, ça montre qu'il y avait cette attente, que les gens, en tout cas comme j'ai rencontré, se disent que là ça y est, on va dans le mur au niveau écologique et climatique, et que les gouvernements ne font clairement pas assez. Et donc maintenant c'est aux citoyens d'agir directement et de faire des actions assez spectaculaires, parce qu'on est aussi dans une société du spectacle et que c'est comme ça qu'on peut peut-être faire bouger les consciences, interpeller les médias et faire en sorte que beaucoup de gens se joignent à ce mouvement. Et donc oui, moi j'ai suivi une formation de désobéissance civile et d'action non violente qui était une formation demandée par Extinction Rebellion France, qui donc est en train de se monter et qui voulait former ses membres. Et la formation était organisée par un autre collectif qui s'appelle Les Désobéissants. C'est un collectif qui a été créé en 2006 par un ancien de Greenpeace et qui apprend la désobéissance civile à tous les gens qui le souhaitent. C'est beaucoup d'ONG et beaucoup, depuis la crise des Gilets jaunes, c'est aussi beaucoup de Gilets jaunes qui veulent se former pour apprendre à faire baisser les tensions et la répression policière. Le formateur apprenait à tous les stagiaires, on va dire. À la fois, il parlait de la question de la violence et de la non-violence, donc pourquoi il fallait être non-violent et qu'est-ce que ça représentait, la question de la légitimité des actions. Et après, des techniques très précises sur comment, par exemple, ralentir l'évacuation par les forces de l'ordre. Donc, les gens faisaient la technique de la tortue ou du petit train où tous les bras et les jambes sont emmêlés. Et comme ça, c'est très difficile d'être délogé. Et plein de conseils techniques sur l'organisation des actions, quel rôle chacun peut jouer, comment on va interpeller des élus, des députés, comment on va interpeller les médias pour être suivis et avoir une couverture médiatique, tout ce genre de questions.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous parliez des soutiens aussi, Audrey Garic, soutien donc de la jeune Suédoise Greta Thunberg qui a appelé donc à la grève des élèves dans les écoles, soutien aussi de Noam Chomsky, soutien de Naomi Klein. Il y a quand même des personnalités, hein, Félix, qui s'engagent aux côtés de ce mouvement.
Oui, notamment au Royaume-Uni, lorsqu'ils ont lancé leur jour de déclaration de rébellion, il y a eu plusieurs personnalités, notamment du monde scientifique, qui ont donné leur approbation, en tout cas soutenu le mouvement. Donc là aussi, pareil, du côté français, on est en train de voir un petit peu vers qui on pourrait se tourner pour avoir ce genre de soutien.
Audrey. Et oui, à l'Agora pour le climat, là, dimanche à Paris, moi j'ai rencontré des scientifiques qui cherchaient à voir comment rejoindre Extinction Rebellion France, en disant que pour eux, les scientifiques doivent aller plus loin, quoi, à ses yeux en tout cas, les scientifiques doivent aller plus loin, et que ça permet, ils considéraient que ça permettait de légitimer le mouvement encore plus, de montrer qu'il y a des militants et puis des gens qui connaissent très bien la situation climatique et écologique et qui travaillent maintenant, qui vont ensemble pour accélérer la lutte contre le changement climatique.
Donc voilà, c'est un combat très large en fait pour ça, c'est pas, et en fait se battre contre le changement climatique, évidemment c'est quelque chose de nécessaire pour ça, mais malheureusement il n'y a pas que ce problème là à gérer, il y a aussi tous les problèmes de pollution, de destruction des habitats, d'espèces invasives, de manière générale toute notre empreinte écologique d'une espèce sur les millions d'autres qui partagent la même planète.
On imagine que des actions à venir sont en préparation, alors notamment le 24 mars je crois, avec une déclaration officielle de rébellion et une semaine internationale mi-avril.
C'est ça, le mouvement du Royaume-Uni a lancé la semaine internationale, donc là tout le monde va les rejoindre pour préparer des actions un peu partout dans le monde.
Donc vous préparez des choses.
On prépare des choses, ouais, c'est ça. restez informés. Vous n'hésitez pas même à nous rejoindre. Si vous voulez proposer vous-même des choses, des actions à faire, c'est ouvert. Il y a juste à s'inscrire sur le forum et vous pouvez venir avec vos idées.
Merci à vous. Merci Audrey Garic. On retrouve tous vos articles sur ces questions sur lemonde.fr via le site de l'émission, bien sûr. Merci Félix. On suivra vos activités, vos actions et toutes les informations, bibliographie, liens, la revue de Web Environnement, les plus, les moins de la semaine sont à retrouver sur franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute de l'émission à votre disposition. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, nous nous intéresserons aux moyens de financer la transition écologique. L'environnement, oui, la facture, non. C'est le titre de l'émission avec Jean Jouzel, Pierre Larouturou et Benoît Leguet. Et dans un instant, sur France Culture, suite de vos programmes avec Être et Savoir et Louise Touré.